Un débat très pertinent en ce début de saison chaude, le retour du baseball à Montréal. Êtes-vous pour ou contre? On en discute avec Isabelle. Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jack. I don't care if we never get back. Let me root, root, root for the home team.
Chantez là, puisque...
Always it's a shame. Or it's one, two, three strikes, you're out at the old ball game.
Merci, merci, messieurs. C'est fabuleux, ce cœur. Je vous les présente. Mario Jean, humoriste, fan de baseball. Jérémy Filosa, journaliste ici sportif au 98.5 FM. Jean Gosselin, spécialiste du marketing sportif. Merci, Jean, d'être là. Maxime Lamarche, directeur général de Baseball Québec.
Bonjour.
Ce sont mes invités pour discuter de quoi? De baseball et du retour, peut-être, de... Bon, comment on l'appellerait, cette équipe-là? J'ose pas dire les expos, mais pourquoi pas? Ben, on est déjà habitués, les expos.
Il y a déjà une équité de marque, ce qui est le plus dur à bâtir en marketing. Les expos sont là. Ça aura le bénéfice de rattacher la vieille clientèle qui était là. Et pour les nouveaux, de toute façon, ils entendent parler des expos depuis le temps et depuis qu'on parle du retour.
Vous savez que c'est une question qui a été posée dans les consultations publiques
tout à fait,
la semaine
parce
dernière.
Que resituons tout ça, Jérémy Filosa, la semaine dernière, il y a eu une étude qui a été faite auprès d'une centaine d'amateurs à peu près, des gens d'affaires aussi beaucoup.
Et ça a été une des questions posées aux gens. Et il y en a quelques-uns qui ont dit...
Comment on appellerait ça, cette équipe-là?
Exactement. Ouais. Certains ont dit, hey, ça a été tellement négatif, les expos, à la fin, pourquoi on ne commencerait pas à neuf? Mais la majorité sont revenus avec la même information que dit M. Gosselin, c'est-à-dire que la marque, puis je te dirais que la casquette, on la voit aujourd'hui plus que jamais. Pas seulement à Montréal, mais au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde, les gens se promènent et voient, hey, le gars, il a une casquette des expos. Il sait pas trop c'est quoi, c'est du baseball, puis tout ça. Donc,
partout la marque dans le monde, il est...
Non, mais c'est vrai.
Pour certains, c'est un groupe de rap.
Moi, c'est soit les Nordiques.
Oui, parce que c'est un groupe de rap. Le chanteur avait mis la casquette des expos et ça a pris feu.
Ouais.
Oh ben.
Mais moi, c'est soit les expos, les Nordiques, là. Les deux, comme nom. Mais c'est vrai, internationalement. Moi, je voyage des fois et j'ai souvent des casquettes de baseball ou des chandails de baseball. Et n'importe où dans le monde, s'il y a un Américain qui est là et qui me voit avec quelque chose, il y a un contact qui se fait. Il vient me voir.
Il
me parle. Il me dit, t'es-tu un fan de cette équipe-là? Hey, t'es un fan de baseball. Hey, salut, moi, je viens de telle place. Et la discussion se passe, puis ça part avec quelque chose de baseball. Au niveau international, le baseball, les Américains, là, c'est tellement dans leur fibre, c'est tellement fort que ce soit une casquette des Expos, des Yankees, de n'importe qui. Et des fois, j'ai un chandail des Yankees et une casquette des Red Sox. Et là, ils comprennent pas. Ils pensent que je suis complètement fou. Et là, je leur explique que je suis un fan de baseball. Mais c'est un lien qui
Je pense qu'on vient de régler ça. Ouais, on appelle ça les Expos. Bon, la question du fameux stade, parce que c'est assez central. Après, c'est une équipe, d'accord, mais combien ça coûterait aux contribuables? Les Québécois doivent-ils payer pour ça? Les Montréalais vont-ils accepter de payer pour ça? Encore la semaine dernière, dans des consultations, puis là, je m'adresse à Maxime, parce que vous êtes directeur général de Baseball Québec, donc au centre de tout ça. On dit un toit sans stade, finalement, avec un beau design, un stade sans toit, pardon, avec un beau design, c'est ça qu'il nous faudrait. On n'aurait pas besoin d'une grosse affaire super coûteuse non plus. Vous en pensez quoi, vous, de ça?
Ben, moi, je suis un peu entre les deux. Je pense qu'un stade sans toit, ça pourrait être extraordinaire, mais en même temps, je sais que la température du Québec est un petit peu différente des États-Unis. Tu sais, nous autres, on est pognés avec des vieux souvenirs du stade olympique avec un toit qui était quand même assez so-so. On a eu beaucoup de problèmes, mais depuis ce temps-là, la technologie a fait que les toits, maintenant, sont extraordinaires. Il y a 5 stades du baseball majeur qui ont des toits qui opèrent super bien, puis sont capables de jouer les parties quand il y a de la pluie, sont capables de jouer en début d'année quand il fait beaucoup plus froid, et sont aussi capables de faire profiter leurs partisans de la belle saison, là. Parce qu'on se fera pas de cachette. Une des beautés de notre sport, c'est justement de pouvoir le jouer dehors. Donc, si on était capable d'avoir un hybride entre les deux, il fait pas beau, il fait trop froid, on met le toit, il fait beau, on ouvre tout ça, on voit le centre-ville,
moi,
on voit les étoiles.
Je sais même pas pourquoi on se pose encore des questions. Je comprends pas. Je veux dire, est-ce que vous vivez au Québec? Est-ce que vous voyez la météo du Québec? Et les gens disent, ouais, mais à Boston, eux autres, ils n'ont pas de toit. Hey, le stade, il y a 100 ans. On va-tu se baser sur un stade d'il y a 100 ans pour construire un stade en 2020? Ça n'a aucun bon
sens.
Avec
une température différente, parce que Montréal serait l'équipe la plus au nord aussi. Ouais. Là, t'sais. Ouais, c'est sûr qu'à l'automne, il fait froid dans les salles. Mais en avril, là.
Allez voir,
il y a une partie du
Allez voir Joey Saputo, puis demandez-lui c'est quoi son plus gros regret du stade Saputo. Ben, c'est de pas avoir couvert toutes les estrades pour éliminer le facteur météo. À Milwaukee, vice-président disait il y a un mois, il dit l'affaire qui opère le plus à Milwaukee, c'est le toit rétractable. Il dit on va chercher 1 million de spectateurs de plus par année. 1 million! Mais une moyenne de prix de 30$ le billet,
mais nous,
imagine.
Ce sera pas ça ici. Ça, c'est l'autre question. Combien va-t-on avoir assez d'amateurs de baseball pour remplir le stade toutes les fois qu'il y aura un match?
La différence fondamentale entre le baseball et la plupart des autres sports, c'est le nombre de matchs qu'on joue.
Ouais.
Y a quatre, on répartit nos dépenses fixes sur 81 matchs.
C'est ça.
Alors qu'au hockey, c'est 40. Au football, la Ligue canadienne, c'est 10 matchs. Donc, c'est même pas comparable. On n'a pas besoin d'un stade. Est-ce qu'on voudrait un stade plein à chaque match? La réponse, c'est oui, bien sûr. Mais nulle part ailleurs, ou presque dans le baseball majeur, les stades sont pleins à chaque match. Les matchs de
mais c'est dur à dire aussi combien tu as vraiment de pertes. Bon, on le dit à chaque fois, mais quand tu vas voir un match de hockey, tu sors pas, tu comprends, tu vas même pas aux toilettes d'un coup.
Non,
tu
le baseball,
quelque chose.
C'est très différent.
Le baseball, c'est familial.
Les gens ne veulent plus s'asseoir et regarder 9 manches puis marquer sur leur carte exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent se promener, ils veulent aller au restaurant, ils veulent aller dans les aires d'amusement. Ils veulent vivre l'expérience. Et c'est pour ça que pour moi, c'est tellement important que le stade soit proche du centre-ville, parce que là, tu vas aller chercher du monde qui s'attendait peut-être même pas ce soir-là à aller au baseball, mais là, ils sont au centre-ville, c'est des touristes. Ah, il y a de l'action ici, c'est quoi qui se passe? On va acheter un billet, on va rentrer. Donc, tu vas chercher du monde que tu attendais peut-être même pas d'avoir dans ton stade.
En même temps, c'est pas la ronde non plus, là. T'sais, tu peux pas rentrer, sortir, je regarde une demi-heure, je sors.
Mais je pense que tu vas aller chercher du monde. Si tu es vraiment près du centre-ville, tu vas aller chercher du monde que des walk-up instantanés à tous les soirs que tu n'aurais jamais eu au stade de
l'Olympique. Mario, toi, tu voyages pas mal.
Ouais,
tu vas en voir justement d'autres.
Coupes par année au moins, certains.
Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette expérience de fan?
Soit les vieux stades ou les nouveaux stades, tu es proche de l'action, tu es proche des joueurs, tu entends les coups, tu vois tout. Tu vois vraiment bien les choses. Donc, il y a une intimité puis une couleur baseball qui est partout. Ce qu'on n'a pas au Stade olympique, c'est sûr que plein au Stade olympique, c'est le fun. Mais plein pour n'importe quoi, c'est le fun. Mais quand c'était moins plein, puis t'es loin de l'action, t'es loin des joueurs, il y a une distance que t'as pas dans les nouveaux stades. Et ça, c'est important. La mode, tu sais, il y a une question de mode, là, ben c'est ça. La mode est à ça dans les nouveaux stades. Ça prend ça si on veut avoir une équipe.
Et quand on parle, Jeremy parle de l'expérience baseball. Est-ce qu'il y a la plupart des stades où il y a du baseball puis où ça marche bien, là?
Il faut faire attention aussi parce que les Américains, le baseball, c'est important, que ce soit n'importe où.
Ouais.
Moi, je suis allé à Oakland, c'est un vieux stade, c'est un stade qui est pas très beau, béton et tout ça.
Ouais.
Et dès la première prise, les gens se mettent à crier et là, tu te dis, bon, ben ils vont se tranquilliser. Non, c'est ça, du début à la fin, ça gueule, ça crie après notre équipe, ça les insulte, ça mange, ça danse, l'ambiance, c'est dans leur fibre.
Comme
le Canadien ici, pour nous autres. C'est pareil.
Un peu aussi ce qu'on n'a pas été capable
mais
de faire.
Mais ils gagnent-tu, eux autres, à Oakland?
Non, ben, pas tout le temps. C'est pas bien.
Et on n'a jamais été capable de montrer ça aux Québécois. On n'a jamais eu vraiment un vrai stade de baseball. On parle du stade Jarry,
ben,
qui était finalement des estrades qu'on a rajoutées.
Le
parc de Laurier, qui était construit vraiment le longtemps, qu'on n'a pas vécu. Après ça, on a été dans le stade olympique, qui, à la base, était
pas
un stade de baseball. Mais non, puis pensez-y, c'est un stade de forme ovale qui est fait pour les sports plus rectangulaires, le football, le soccer. Et qu'est-ce que les Alouettes ont fait? Ils ont décidé de quitter le Stade olympique. Qu'est-ce que l'Impact a décidé de faire? A décidé de quitter le Stade olympique pour se construire son propre stade. Alors, le baseball, qui est un sport hyper unique, avec des dimensions complètement différentes, avec une culture différente, peut pas survivre au stade. Et c'est là que moi, ça me déçoit, parce que quand on va aux États-Unis, quand on va à Toronto, puis qu'on va voir l'action, on voit une game de balle, allez à Pittsburgh voir une game au PNC Park, là, puis tout le monde qui revient de là dit « Oh my God, c'est ça un match de baseball des Ligues majeures? » C'est vraiment ça. On n'a pas eu la chance de donner ça aux Montréalais.
Mm-hmm.
Mais si on n'avait pas le stade olympique, la question se poserait pas non plus. Là. On a ce poids-là au-dessus de la tête de dire, ben oui, mais on a le stade.
Ouais
mais on peut pas le démolir. Ben non, on peut pas le démolir. Mais
qu'est-ce qu'on fait avec ce stade-là, malheureusement, tous les stades qui ont été bâtis à cette époque-là ont soit été démolis ou grandement rénovés à coût de 500, 600, 700 millions. Puis ben nous autres, à un moment donné, il va falloir prendre une décision par rapport à ça, mais on est en retard sur tout le monde.
Mais c'est pas parce qu'on n'a pas payé d'argent.
Ah, ben
c'est parce qu'on a payé pendant... ça fait pas si longtemps que ça qu'on Yann Filet de payer le maudit toit, là.
Il y a 4 ans, j'ai fait une étude. Les stades de 50 000 places et plus, bâtis dans les années 70, en moyenne, en Amérique du Nord, ont coûté 50 millions de dollars. Le nôtre a coûté 700 millions.
C'est incroyable.
Hein? C'est là le gros du problème. Ouais. Ceci dit, on peut pas poursuivre l'aventure si on pense retourner au stade olympique à temps plein. C'est oubliez ça, ça arrivera jamais.
Mais c'est quoi nos chances de véritablement ravoir une équipe? Parce qu'avant, voilà,
je
on parle de stade.
Sont
mais...
bonnes.
Ouais, elles sont très bonnes, tu penses?
Moi, je pense qu'elles sont très bonnes à ce stade-ci. Quand je vois qu'une firme américaine qui deal directement avec le baseball majeur, puis qui s'en vient faire une étude de marché ici. Et là, ils s'en vont à Portland, un autre marché qui veut absolument avoir une équipe du baseball majeur. Moi, je me dis, il n'y a rien de tout ça qui arrive par coïncidence. Tampa et Oakland, Tampa se sont donnés jusqu'à la fin de l'année pour régler leur dossier, et Oakland, ça avance aussi. Moi, dans mon esprit à moi, là, d'ici un an, peut-être, il y a un processus d'expansion qui va être enclenché, et Montréal va être directement impliqué. Ils sont numéro un sur la liste. Donc, moi, je pense que ça regarde très bien.
Maxime, est-ce qu'on va revoir à Montréal le baseball plus vite que le hockey à Québec?
Oh, c'est une question que je me fais poser régulièrement. Ça. Plate à poser à celle-là parce qu'on aimerait ça avoir les deux. Mais je pense que le baseball à Montréal, on est dans la bonne direction. Puis, tu sais, faut pas se cacher, là. Les gens qui veulent le retour, les propriétaires, quand on parle à M. Brofman, on parle de M. Boyko, on parle de M. Garber, ce sont des gens qui ont excellé en affaires. Ce sont de grands Montréalais qui veulent aussi le bien de la communauté. Donc, c'est pas un projet ficelé vite sur le side, là, pour juste pour le faire avancer. On a des gens ici en place qui veulent que ça soit un succès.
Et qui est aussi grand philanthrope soit-il, ces gens-là, c'est aussi des gens d'affaires. Et le retour des expos, pour eux, c'est pas une bonne œuvre pour Montréal. C'est de la business.
Ben, c'est clair.
Ces gens-là n'investiraient pas ces montants-là aujourd'hui. Il y a un an, deux ans, peut-être que c'était autre chose. C'était plus un projet. Mais quand on va, et je rejoins Jérémy là-dessus, quand on va chercher des firmes de cette envergure-là pour faire des études, ces firmes-là n'arrivent pas ici en disant, ben, on vous facturera si ça fonctionne. Non, ils facturent aujourd'hui, puis généralement d'avance. Donc, ces gens-là sont embarqués, fonctionnent et veulent que ça revienne.
Justement, parce que ce sont, moi, je dirais plutôt grands philanthropes, oui, mais d'abord et avant tout des gens d'affaires.
Tout à fait.
Et c'est là où je pose la question aux auditeurs. On va bien sûr prendre vos commentaires tout de suite après la pause, mais c'est là où je me dis, est-ce qu'un financement public... ne serait-ce que clairement partiel, on s'entend là, mais même à ça, est-ce qu'on c'est nécessaire que les citoyens contribuent à Montréalais et Québécois contribuent à ce projet-là?
Je vais poser la question d'une autre façon. Les gouvernements, les fonds publics investissent dans plein de secteurs économiques. Demandez demain matin une subvention parce que vous voulez implanter une usine qui va créer 200 emplois avec une masse salariale de 50-60 millions. Tous les gouvernements vont se mettre à genoux pour pouvoir financer, vont vouloir embarquer là-dedans. C'est le même genre. Donc, si on remet en cause le financement public pour une équipe de baseball, faudra aussi la remettre en cause pour plein d'autres organisations privées, parce que c'est de ça dont il est question. Oui, il y a une mauvaise image. On finance des multimillionnaires. C'est la nature de la business.
Ben là, il y a un autre beau projet là, avec Evenco, juste pour rire, qui sort aujourd'hui dans les médias. Est-ce que les subventions...
C'est ça la question. Nous autres, ça nous frustre un peu, les gens de sport, parce que le débat revient toujours sur la table quand on parle des sports, mais dans tous les autres domaines. Je veux dire, sortez-moi la liste de où s'en va mon argent à moi, puis je vais la regarder une par une, puis à peu près 8 affaires sur 10 là-dedans que je vais dire, ben moi, je suis pas d'accord avec ça, mais j'ai pas mon mot à dire. Fait que, tu sais, puis est-ce que mes taxes vont augmenter parce qu'on investit dans par exemple, le baseball plutôt qu'une autre chose? Pas nécessairement. C'est juste que là, pour une fois, ça va s'en aller dans une direction qui, moi,
m'intéresse. Mais là, vous pouvez pas trop plein. Regarde le stade à Québec, là.
Oui,
quand même, là, ça a été payé aussi en partie avec l'argent des gens.
Côté de Montréal, on a toujours dit, tant que le baseball nous dira pas, vous avez une équipe, il n'y aura pas de pelletée de terre. Donc ça, à ce niveau-là, je pense que c'est complètement différent.
Il y a des conditions. Moi, je pense que le public peut financer des affaires. Mais c'est des conditions qu'on n'a pas. Comment ça se fait qu'on n'a pas des clauses dans le bas des contrats de dire, parfait, on vous donne un certain montant d'argent, mais si vous partez, vous nous devez tant.
Exactement.
Ça n'a jamais été fait pour aucune compagnie.
Et selon
Donc, il y a des grosses compagnies de taux à Bois-Brillant qui ont eu des subventions pour changer leur ligne. Le jour au lendemain, ils partent puis disent, bon, ben finalement, on a perdu notre argent, nous autres.
Mitch Garber a dit sur nos ondes, clairement, textuellement, on lui a posé la question, c'est Paul Arcand qui lui a demandé qui va payer pour le stade, et il a dit, c'est nous autres. Fait à moins qu'il est menteur, là.
C'est peut-être le public qui va payer pour le toit.
Ça, je serais correct avec ça, moi, parce que je pense avoir
problème. On partage les risques.
C'est ça.
Je pense
elle embarque.
Nous
et je suis d'accord avec elle. Elle veut pas payer pour un stade, puis on veut pas qu'elle paye pour un stade
mais
non plus.
Mais qui va payer pour un stade?
Mais c'est les propriétaires qui vont payer pour le stade. Est-ce qu'on va avoir besoin de certaines motivations? Peut-être motivation sur le terrain, motivation sur les impôts. Moi, je ferai pas partie d'un groupe qui va demander aux villes de bâtir un stade. À Levi Stadium à San Francisco, ce qu'ils ont fait, c'est que c'était complètement privé, mais avec un prêt de la ville qui est garanti et qui va te rembourser. Ça, d'après moi, c'est acceptable. Donc, est-ce qu'on doit être créatif? Oui, parce qu'on peut pas puis on veut pas demander à la ville de construire et payer pour un stade.
Et non, on pourra pas parce qu'on va tout mettre l'argent dans la ligne rose, fait qu'on n'aura plus une scène. On va revenir
bien sûr quand,
quand il dit elle, il parlait de Valérie Plante, de la mairesse, être créatif effectivement, de créer l'engouement à nouveau parce qu'il faut quand même le dire, les expos ça a été une signature pour Montréal pendant des années. D'ailleurs, j'aimerais juste avec mes invités qu'on rappelle qu'est-ce qui s'est passé avec les anciens expos, Jérémy Filosa.
En fait, ce qui est arrivé là, c'est pas compliqué, c'est qu'à l'époque, il y avait pas chaque équipe était individuel. Donc, travailler individuellement. Donc, les expos, pour survivre, ils comptaient sur l'argent du contrat de télé, ils comptaient sur la vente des billets et tout cela. Et là, à un moment donné, t'as des propriétaires ultra riches et des propriétaires pauvres qui ne pouvaient pas plus compétitionner. D'ailleurs, les Braves d'Atlanta avaient gagné 11 championnats sur 12, mis à part l'année de la grève. Mais, c'est plate à dire, mais un an seulement après le départ des expos, le baseball majeur s'est organisé pour rendre le baseball plus équitable. Ils ont installé un partage des revenus. Donc, chaque année, les clubs partent l'année avec 80 millions en poche sans avoir vendu un seul billet. T'as des taxes de luxe pour ceux qui dépensent plus. Ensuite de cela, t'as beaucoup d'argent qui est généré par Internet et tout cela. Donc, les équipes partent déjà avec suffisamment d'argent pour être compétitifs. Et ça, c'est la différence la plus importante de ce qu'était le baseball quand les expos sont partis et le baseball d'aujourd'hui.
Mm-hmm. Et à ça, il faut rajouter la volonté des propriétaires, du propriétaire de l'époque, même des deux derniers propriétaires, je dirais. M. Brochu avait mis tous ses œufs dans le même panier. Il voulait un stade au centre-ville, financé par le public. Donc, il a ni plus ni moins craché dans sa propre soupe et il disait aux gens, ben ma soupe est pas bonne, ne venez pas manger chez nous. Donc, ça a été le point.
Il y avait la structure aussi, c'était une société en commandite. Ben,
et après ça, il y a eu la société en commandite où, qui a été achetée par M. Lauria.
Jeffrey Lauria,
dont le principal, dont le principal objectif, et il a encore refait le coup.
Voldemort. C'est Voldemort.
Celui dont il ne faut pas dire
c'est
le nom.
Ça. Ouais, c'est ça.
Ben lui, son principal objectif, c'était de déposséder les actionnaires québécois du temps
et faire un coup d'argent par
une passe-passe financière et d'éventuellement revendre l'équipe.
Clairement.
Ce qu'il a fait, et il a fait plusieurs dollars avec ça. Donc,
mais toi, tu
ça n'a rien à voir avec le baseball. Ça n'a rien à voir.
Les expos sont partis en 2004 parce qu'on les a crissés dehors.
C'est ça que tu dis. On les a ni plus ni moins. Et quand je dis on, je parle pas des amateurs, mais on a tout fait pour qu'ils s'en aillent. On a tout fait pour que les investisseurs québécois qui étaient restés, eux l'ont vraiment fait à cette époque-là pour, comme contribution de bons citoyens. On pense à Provigo, on pense au Fonds de solidarité. La Banque de Montréal était là. M. Bronfman était là. Eux étaient restés. Mais c'était clair que Lauria ne voulait rien faire.
Ouais.
Donc, Gloria
avait pas d'attache à Montréal. Moi, appelez-moi peut-être naïf, mais j'ai quand même parlé souvent à M. Bronfman et M. Garber dans les trois dernières années.
Toi, t'as couvert les expos pendant six ans au moins.
Ouais. Les six dernières et les six mauvaises. Mais quand je parle à M. Bronfman et à M. Garber, moi, là, je suis convaincu qu'il y a au-delà de juste la business. Ces gars-là veulent quitter, et je pense que M. Bronfman veut ramener le fait que son père avait amené les expos, puis lui, il veut être celui qui les aura ramenés. Il y a un sentiment de, on est des Montréalais, on est Québécois, on est fiers.
C'est vrai.
Puis on veut laisser quelque chose à Montréal quand on va prendre notre retraite, puis on va s'en aller vers d'autres choses. Là. On veut laisser quelque chose.
Il y a de ça.
Mais tu veux dire, il y a un symbole là-dedans aussi.
Exact.
Mais c'est de la business. Mais c'est de la business dont le projet passe par Montréal.
Ouais.
Et c'est pas une entreprise qui veut s'installer quelque part puis qui négocie dans quelle ville je pourrais m'installer. Ils le font pour des questions de business, mais ils les font pour des questions de business à Montréal. Je pense pas que ce groupe-là...
Ben, c'est comme le hockey à Québec. Là-dessus, les deux projets se rejoignent dans la mesure où il y a le symbole déchu, il y a ce qu'on aurait souhaité que ça devienne qui a jamais eu lieu.
C'est pas
et
Jeffrey
Lauria voudrait qu'il revienne.
Qui voulait acheter n'importe quelle équipe, peu importe laquelle, pour faire une passe d'argent.
Ouais, c'est ça.
Je vais vous expliquer une chose, OK? J'ai parlé au vice-président du baseball majeur il y a deux ans qui m'a dit... il y a une chose qu'on comprend et qu'on réalise. On veut internationaliser le baseball. Pour nous, avoir une équipe qui opère en français, qui a des matchs en français à la télé, c'est hyper important. Parce qu'on veut maintenant s'en aller en Afrique, on veut aller en Belgique, on veut aller en France, et on veut pouvoir leur offrir un produit francophone. Et dire, moi, je vais approcher Being Sports en Europe et dire... Je veux pas faire des millions avec vous, mais je veux vous offrir mon produit pour que les gens puissent le regarder et commencer à créer des fans là-bas. C'est hyper important.
Y a-t-il du monde qui joue au baseball en Europe?
Non, mais on va aller chercher ce marché-là.
Ouais, Maxime,
on joue des matchs au Mexique, au Japon, partout présentement sur la planète parce qu'on va aller chercher ces fans-là. Donc, pour eux, avoir un produit, un club qui opère en français, c'est super important.
Maxime, la
Hollande, la France, c'est des marchés maintenant où il y a du baseball. Il y a du baseball amateur, ces équipes-là se présentent toutes à la Coupe du Monde. Évidemment, c'est pas des équipes championnes, évidemment, c'est pas l'Amérique latine, mais elles sont présentes maintenant et il y a une certaine effervescence en Europe pour les matchs du baseball majeur. Donc, c'est vrai, c'est quand Jérémy dit d'avoir un marché francophone, il irait chercher encore plus de terre.
Est-ce que c'est plus un trip de génération X ou de baby boomer? Est-ce qu'on a une relève suffisante?
Écoute, les gens disent...
Ceux qui nous ont appelés, là, c'est des gars qui ont été voir les expos. Ouais. Là.
Mais le plaisir...
C'est comme vous, là.
La mode, le plaisir, il n'y a pas de génération.
Les jeunes, baseball.
Ils vont triper baseball.
Maxime,
je peux en témoigner parce que le baseball amateur est tellement en santé. Puis ça, on se bat contre ces vieux stéréotypes-là de le baseball est en chute. Puis en 2004, quand les expos ont quitté, ça a tout arrêté ce qui était en lien avec le baseball. Mais là, on est rendu ailleurs. Les petites familles, là, puis j'en ai tellement. Puis évidemment, moi, étant dans le baseball, mon fil de nouvelles Facebook, là, vous saviez le nombre de familles que je vois aller à Fenway Park avec des photos. Les jeunes familles, c'est ça qu'ils veulent. C'est un sport, c'est la belle saison, c'est très inclusif.
On a-tu des vedettes? Nous mettons qu'on a une équipe. On parle d'une équipe dans combien de temps? Là? Mettons un stade, ça prendra combien de temps?
Moi, je pense après 3-4 ans à peu près.
Bon, aurais-tu des jeunes là, qui seraient des vedettes?
Ça, c'est ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on n'a jamais eu autant de jeunes prospects dans les ligues mineures présentement qui sont dans la bonne direction pour se rendre dans les ligues majeures. Si on vient, on s'en va dans, on se prospecte dans 4-5 ans, peut-être 6, là, on n'aura jamais eu autant de Québécois dans les ligues majeures.
On aurait des jeunes joueurs québécois.
Définitivement,
là,
des jeunes Charles Leblanc, des jeunes Abraham Taureau, des jeunes Raphaël Gladue, qui c'est toutes des jeunes qui sont tout près, des Philippe Aumont, Russell Martin qui est déjà là, on n'en a jamais eu autant.
Et là, ça en prendrait.
En
avec
plus,
les expos.
Je peux vous dire une chose. Ça, comparativement à l'époque, il y a suffisamment de monde de baseball à Montréal qui serait capable de gérer cette business-là. Ouais. On serait pas obligé d'amener des Américains de partout pour la gérer, puis ce serait des gens d'ici qui la géreraient.
En une heure, vous m'avez convaincu quasiment.
Non. Yes.
Ouais. Je suis sûr que vous allez tous être des bonnes personnes pour pousser le projet.
Je suis le dossier de façon quotidienne, puis j'ai encore l'intention cette semaine de faire des coups de téléphone puis aller chercher encore plus d'informations.
Alors, tu nous tiens au courant, Jérémy Filosa. Merci beaucoup d'avoir été là, Jérémy, bien sûr. Mario Jean, bien sûr. Des shows qui s'en viennent?
Ouais, je suis en rodage pour un nouveau show, puis le théâtre, un petit peu cet été à Laval, une pièce de théâtre, puis je pars en tournée avec le théâtre à l'automne.
Tu reviendras m'en parler.
Ben oui, OK.
Merci Jean Gosselin, merci beaucoup Maxime Lamarche de Baseball Québec.
Dans un instant, une histoire de famille qui dépasse la fiction.